Pierre-Yves, les Canadiens aiment beaucoup payer encore comptant, pour avec du cash, quoi.
Selon le rapport de la Banque du Canada, bon, on regarde les données en 2015 et 2013, bon, 51% des transactions réalisées en 2015, c'était en cash, en espèces. Il y avait le reste, c'est les cartes de débit et les cartes de crédit. Évidemment, il y a plusieurs raisons pour ça. Le premier, c'est qu'il y a des commerçants qui refusent les cartes parce qu'ils ne veulent pas payer les frais de transaction. Deuxième point, il y a la rapidité, évidemment. Café, payer 4$ pour un café rapidement, s'en aller, c'est rapide. Les terminaux sont parfois lents. Il y a aussi les habitudes. On est habitué d'avoir du cash sur soi. On veut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, donc on le garde comptant au lieu du débit ou du crédit, même si le débit donne directement sur notre compte. Pour mieux gérer notre budget et avoir en main ce qu'on a, mais Paul, je vais te parler de quelque chose qu'on n'ose pas parler dans le rapport.
Mm-hmm.
En tout cas, dans les retours, c'est Paul, la fraude, évidemment, parce que quand tu fais de la fraude fiscale, t'as pas le choix de passer ton cash. Donc, par exemple, vous allez chez Rona, et une dame devant vous, moi, ça m'est arrivé l'année passée, tu sais, elle achète pour 1 780 $ de matériel comptant. Tu sais, je veux bien croire que t'aimes l'argent comptant, mais c'est pas vraiment pratique de payer à coup de 100 $ brun. L'autre point, c'est que si vous avez des 100 $ sur vous, faut les demander au comptoir. Les guichets ne les donnent pas. Les 50 $, c'est extrêmement rare. Certains guichets en donnent. Donc, Paul, c'est pour faire des gros paiements en cash. Et quand on a besoin de faire un gros paiement en cash, c'est que des gens n'acceptent pas les chèques, Paul. Et là, on va arrêter de jouer à l'hypocrisie nationale. S'il y a beaucoup de fraude dans le domaine de la construction comme ça, donc les gens se font payer comptant avec des bruns, parce que quand tu veux payer quelqu'un 5 000 $ comptant, ça va te prendre, tu sais, beaucoup de 100 $, donc 50. Donc tu vas à la caisse ou à la banque et tu vas au comptoir et tu dis,
acquitter la facture par enveloppe.
Voilà. Donc aujourd'hui, en 2017, honnêtement, on est près d'une vie sans compte, très, très, très carte de crédit, carte de débit et argent virtuel. Donc, c'est très surprenant que Paul, qu'il y ait encore des gros paiements en espèces.
La firme KPMG a fait une étude sur les retombées du groupe, en fait, du festival Juste pour rire. Pour le compte de l'entreprise, ils estiment ces retombées économiques à près de 85 millions de dollars.
Selon le critère suivant, évidemment, tu as une commande, tu la réponds, donc il y a une relation publique présentement, et c'est quoi? Un touriste est considéré à 40 km de Montréal. Bon, là, Paul, si tu pars de Saint-Jean-de-la-Pérade, Saint-Joachim-de-la-Pérade, ou Saint-Jérôme, ou Bellefeuille, Valleyfield, Saint-Timothée, Longueuil, très, très loin, là, tu peux être considéré comme un touriste. Donc, est-ce une retombée économique, Paul, de partir d'une ville, aller dans une autre et dépenser ton argent d'une ville à l'autre? Pour le Québec en entier, la réponse, c'est non. Alors, on gonfle les résultats en mettant des critères du genre. Ce qu'on veut, c'est quel touriste étranger est venu au Québec pour dépenser à cause simplement du festival Juste pour rire? Là, on aurait des vraies retombées économiques pour la province. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange des choses. Deuxième point, dans le groupe Juste pour rire, quand on fait des productions, on engage des gens. Si on fermait le groupe Juste pour rire demain, mais les productions seraient générées par d'autres compagnies, d'autres employés seraient engagés ailleurs, donc il y aura un déplacement d'argent. Donc, ce n'est pas une création de valeur exclusive et non échangeable. Pour l'instant, ce rapport-là tombe exactement à point, c'est-à-dire quoi? Juste avant la vente de Juste pour rire, juste avant le combat entre les deux festivals de savoir qui va se faire subventionner et comment, c'est une guerre d'opinion publique, d'image. Et j'espère que le lecteur et l'auditeur sont assez lucides pour voir la différence.
Et en dernier lieu, quelle performance remarquable de Walmart, encouragée par ses efforts dans le commerce en ligne?
Oui, pour un trimestre, évidemment, on a plus de 123 milliards de revenus.
123 milliards!
Oui, Paul, mais la marge qui est intéressante, c'est que la marge nette est très petite, là. 1,4% de marge nette. Ça veut dire que vous vendez 100 $, Walmart en haut net 1,4 $. Donc, faut vraiment vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Et ce qui a fait réduire la marge de 2,6 au même trimestre l'an dernier à 1,4, c'est quoi? Tu fais du commerce en ligne, tu fais de la promotion, tu achètes des entreprises, tu fais de l'acquisition, tu veux réussir à vendre, à convaincre le client d'acquérir un client en ligne, mais ça, Paul, ça coûte des sous. Faut subventionner les livraisons parce qu'évidemment, le client qui accepte de se faire livrer veut que ça lui coûte la même chose qu'en magasin. Donc, tu subventionnes partiellement ou totalement la livraison. Là, le but, c'est de le convaincre d'augmenter la grosseur de sa commande pour amortir les frais de livraison. Donc, commandez plus qu'une boîte de couches. C'est commander la commande au complet de choses importantes, légères et petites de préférence. Donc, on s'en va vers là. Walmart se dit, c'est pas vrai qu'on va se laisser battre par Amazon dans notre propre clientèle. On va développer un créneau. Donc, Amazon part de l'Internet, s'en va dans la brique. Et Walmart part de la brique, s'en va dans l'Internet. Et on va se livrer une guerre de titans, Paul.
C'est bien dit. Merci, Pierre-Yves. À demain.
Salut, Paul.